Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Dans une résolution adoptée le vendredi dernier, les conseils de sécurité des Nations Unies condamnent fermement l'offensive menée par les M23 République démocratique du Congo et ses avancées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu avec le soutien de forces de défense rwandaises. Le texte présenté par la France et adopté à l'unanimité exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et des 6 alliés rwandais. D'autre part, 24 heures avant l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le département d'État américain a annoncé le jeudi 20 février des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole civile du M23, pour leur implication dans les conflits dans l'est de la RDC et dans les violations des droits de l'homme. Pour la majorité au pouvoir, d'aucuns estiment qu'il s'agit là d'un premier pas significatif sur le front diplomatique mené par la RDC contre l'agression dans l'est du pays. Pour certains membres de l'opposition, par contre, ils regrettent que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'ait pas pris le courage de sanctionner les autorités actuelles, car étant à la base du problème. Quant à la société civile, notamment celle du Sud Kivu, elle craint que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit pas suivie d'effets immédiats sur le terrain, faute de mesures coercitives. Comment commentez-vous cette actualité? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs, ou encore intervenir en direct en composant les zones 9-716-80-79. Pierre Diassinois est à la mise en ordre de ce magazine. Julie Feza, Bongonda, Elise Kavira et Trio Bandia sur la réalisation, la coordination de ce magazine présenté par Marcel Ngomombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci d'avoir été nombreux à réagir par rapport à ce sujet sur la résolution adoptée le vendredi dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 à République démocratique du Congo et ses avancées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu avec le soutien des forces armées rwandaises, mais aussi cette annonce du département d'État américain le jeudi 20 février des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole civile du mouvement 23. Vous avez été nombreux à réagir. Nous aurons l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions au cours de ce magazine. Pour l'instant, nous allons nous tourner vers notre invité, Frédéric Amani. Bonjour.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut dire avec ces sanctions américaines, mais aussi avec cette résolution adoptée le vendredi dernier par les conseils de sécurité de Nations Unies, qui condamne fermement l'offensive menée par les M23 République démocratique du Congo et ses avancées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu avec le soutien des forces armées rwandaises. Le texte, il faut le rappeler, qui a été présenté par la France et adopté à l'unanimité et qui exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et de ses alliés rwandais. Peut-on dire que c'est déjà une avancée significatif sur le front diplomatique mené par la RDC face à l'agression à l'est du pays?
Bien, merci beaucoup de m'associer à ce débat et de la parole accordée une fois de plus. Alors, c'est vrai, nous saluons la résolution qui a été votée le week-end passé, le vendredi, et c'est là, comme vous l'avez dit, une avancée dans le cadre du rétablissement, si vous voulez bien, de la paix à l'est de la RDC. Mais moi, je pense que il faut pas, comme je l'ai toujours dit, il faut pas que les Congolais dorment sous les lauriers, parce que cette résolution vient d'être votée par le Conseil de sécurité. Dois-je rappeler que en 1997, en février exactement, il y a eu une autre résolution identique du Conseil de sécurité lors, n'est-ce pas, de la rébellion ou de la révolution de l'AFDL contre le régime du président Mobutu. Et donc, je pense que cette résolution, oui, elle a été votée à l'unanimité, mais je pense que beaucoup d'efforts doivent encore être faits et par la RDC, mais aussi par le Conseil de sécurité comme l'organe chargé de rétablir la paix et la sécurité au niveau international. Et je voudrais aussi préciser que il faut pas oublier que le pouvoir du Conseil de sécurité s'articule à trois niveaux. Il y a les résolutions, les décisions du Conseil de sécurité qui ont le pouvoir d'ajustement ou de règlement. Et ça, on fait allusion au chapitre 6. Il y a aussi les pouvoirs coercitifs au niveau du chapitre 7. Et je crois que c'est ce chapitre-là qui devrait beaucoup nous intéresser ou intéresser les conseils de sécurité par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Et enfin, il y a aussi les pouvoirs d'accord régionaux où on parle, n'est-ce pas, des subsidiarités où le Conseil de sécurité est confié à une organisation sous-régionale les missions de paix et de sécurité. Alors, moi, je pense que la résolution a été votée, mais on ne doit pas se limiter par là. Le Conseil devrait ajouter un élément coercitif pour que ce soit le M23, que ce soit les pays qui soutiennent la rébellion, dont notamment le Rwanda et l'Ouganda, et aussi parce que dans cette résolution, il y a aussi les recommandations faites vis-à-vis de la RDC, voyez-vous. Donc, je crois que chaque parti devrait prendre ce qui lui concerne et appliquer. Mais ce qui ne sera pas le cas d'un point de vue par rapport à ces manques des recommandations coercitives. Pour revenir à votre question par rapport aux sanctions, oui, les sanctions aussi sont une bonne chose, mais je pense que il y a des acteurs bien ciblés qui n'ont pas été concernés. Le ministre James Kabarebe, oui, comme ministre rwandais qui soutient, n'est-ce pas, la rébellion, Laurence Kanyuka comme porte-parole. Mais au-delà de ces deux personnalités, il y a d'autres acteurs majeurs, que ce soit du côté M23, que ce soit du côté du Rwanda, qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans cette déstabilisation. Et je pense que les départements d'État américains devraient aller plus loin pour sanctionner ou cibler les vrais acteurs. Alors, à ce niveau-là, je pense que la résolution est là, les sanctions sont là, c'est une bonne chose, mais je crois que c'est encore le premier pas dans l'avancée des efforts qui doivent être mis en exergue pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC. Je suis heureux que nous soyons entendus parce qu'on a demandé à plusieurs reprises les sanctions, mais ces sanctions doivent être, n'est-ce pas, dirigées vers des acteurs bien impliqués à cette crise-là. Et pour terminer, je pense que un caractère coercitif doit être de mise par rapport à cette résolution. Mais un autre élément, je pense que le Conseil de sécurité, que ce soit les membres permanents et les non permanents, devraient davantage faire pression aux belligérants pour que cette résolution soit appliquée. Dans le cas contraire, il y a une résolution qui souffrira, n'est-ce pas, d'inapplicabilité et on sera en train de tourner à rond. Entre-temps, ce sont les vies des Congolais qui seront, n'est-ce pas, décimées et que on sera dans un statu quo au niveau, que ce soit de la RDC ou au niveau sous-régional, parce que cette crise a des ramifications sous-régionales et il va de l'intérêt de la communauté internationale au travers des conseils de sécurité, n'est-ce pas, de faire pression à tous les acteurs impliqués pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs, qui a toujours été déstabilisée plus de deux décennies.
Voilà, donc vous estimez que les sanctions américaines, c'est bien bon. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est encore pas mal, mais plutôt, ça sera beaucoup mieux qu'il y ait ces pouvoirs coercitifs du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire, une fois que cela ne sera pas observé sur le terrain, il faut des mesures coercitives. Là, par exemple, Emmanuel Ndala qui nous dit d'ailleurs, nous saluons la décision du département d'État américain ainsi que celle du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous regrettons le retard avec lequel ces deux décisions viennent d'être prises, qu'il ne fallait pas attendre comprendre que la situation dans l'Est de notre pays se dégrade jusqu'à ce niveau pour le faire et nous attendons leur concrétisation sur le terrain. Voilà, on va bientôt ouvrir le standard. Il y a des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. On a déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle de Lubumbashi au Bête Boïssa, qui est à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens par aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne fermement l'offensive menée par les M23 en République démocratique du Congo et ses avancées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud-Kivu avec le soutien de la force des défenses rwandaises, mais aussi des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole civile du mouvement M23, pour leur implication dans les conflits dans l'Est de la RDC et dans les violations des droits des lois. Si vous voulez intervenir, composez le 09-716-80-79.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
émissions. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Si on n'a pas de travail,
le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, nous avons ligne depuis Lubumbashi, Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio et à l'invité du jour également. Merci de m'associer à ce niveau. La première question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a une bonne chose que le Conseil de sécurité, les États-Unis et d'autres partenaires aient décidé enfin de prendre quelques sanctions? Oui, cela a été notre souhait, y compris moi également. J'ai fallu amplement ces sanctions. Là où je ne suis pas peut-être pas serein, c'est dans la fragilité, je veux dire, un peu d'évaporation des sanctions. Je n'ai pas vu le Conseil de sécurité au travers de sa résolution prendre des sanctions claires, précises. Non, je n'ai pas vu ça. Il y a eu des sanctions, certes, qui semblent être, à mon avis, un peu éparses et qui ne permettent pas vraiment de neutraliser la force ou de réduire l'ennemi un peu en termes de force. Parce que le premier élément, la première considération, un peu les caractères flous de ces sanctions. Si bien qu'elles sont importantes, mais les sanctions restent un peu floues et vagues, ne précisant pas également dans quelle mesure peut-être également. La deuxième chose également, est-ce que ces sanctions suffisent-elles de pouvoir réduire sensiblement la force du Rwanda, notamment de ces années M23 et RDC? Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en 1999, la résolution 1234 a été prise par les conseils de sécurité. Presque le même contenu. Et lorsque vous essayez de scruter, d'analyser les deux résolutions, celle de 2025 et celle de 1999, vous voyez qu'ils ont le même contenu. Mais ce qui est en 2002 vers 2003, c'est les Rwanda et l'Ouganda se sont décidés de se retirer de la RDC. Et quand nous faisons le calcul simple, de 1999 jusqu'à 2002-2003, il y a eu au moins 3 ans à 4 ans que les rebelles étaient installés au niveau de l'Est également. Est-ce que c'est facile? La même analyse ou la même histoire également, la même expérience, se répliquera-t-elle également? Bon, comme on a pris Goma, Bukavu aujourd'hui, peut-on attendre qu'il puisse se retirer en 2028, comme c'est fait en 1999 vers 2002? Je pense que nous devons être vigilants également. Troisième des choses ou troisième considération, Martin, je pense que nous ne devons pas nous contenter ou essayer d'être négligents des sanctions ainsi, non seulement floues, mais aussi qui semble être pas efficace du point de vue insuffisante, incomplète. Je suis d'accord qu'on puisse sanctionner les gens de M23. Est-ce qu'ils sont tous tellement à deux? Mais c'est Laurence et M. Jean Cabaret également, qui est un élément puissant dans cette histoire également. Je dis non. Il y a autant d'éléments de M23 de l'APC qui tuent. Donc, on voudrait également voir la liste s'alourdir également et que ces personnes soient sanctionner également, non seulement au niveau de M23, mais aussi, Marcel, disons-nous la vérité, même au niveau du pays, parce que le chef de l'État l'a reconnu, que même au niveau du pays, il y a également des têtes qui contribuent, vous avez appris des généraux, vous avez appris des magistrats, des magistrats, vous avez appris également des majors qui ont fait coopérer avec l'ennemi. Je pense, dans la même logique, et l'équité dont nous avons toujours voulu tenter, je pense que le Conseil de sécurité ne devait pas se limiter tout simplement à sanctionner les deux métiers, mais devait également étendre les sanctions au niveau interne de la RDC contre les, tous les traîtres également, que nous ne pouvons pas citer dans cette média également, et dans ces médias également. Voilà en quelque sorte les restrictions que je vais faire jusqu'à là, qui nous permettent également de percer les images. Je voudrais citer en invitant le chef de l'État à immédiatement, le plus vite possible, de mettre en fonction un gouvernement d'union nationale de plus ou moins 26 personnes représentant les forces régionales et non l'État politique que nous avons déjà chanté. Également mener des réformes dont nous avons également évoqué ici et l'aménagement ou l'amélioration des conditions de prise de l'unité, même si au niveau diplomatique il y a des avancées un peu significatives, mais cela ne peut pas nous permettre que nous soyons distraits au niveau interne, que nous puissions mettre des mouvements internes pour permettre à ce qu'il y ait des réformes urgentes qu'on réglige, qu'on forme, qu'on puisse doter également de la logistique, et que notre chef de l'État devait également s'accélérer, que tous les députés nationaux pouvaient également mettre de côté leur salaire afin de pouvoir soutenir l'effort de guerre également, pour, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan militaire, que nous devons également nous préparer, et pourquoi pas aller vers les partenaires qui peuvent nous permettre ainsi que nous puissions avoir également de la logistique nécessaire pour contrer l'ennemi également. Je n'ai pas fermement de force que nous voyons qui peuvent être recrutés ou qui sont déjà recrutés, mais si seulement si on met à leur sol également, à leur disposition, la logistique.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia de Lubumbashi. Obed Bouissa, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs des radios.
Allez-y, vous avez la parole.
Oui, merci de l'octroi du verbe. Monsieur Marcel, j'ai rejoint justement ce qu'a dit mon confrère Patrick Odia. Donc je pense que cette résolution est très ambiguë. Est très ambiguë, puisque même avant d'intervenir, j'ai fait une petite gymnastique. J'ai essayé de lire la résolution, en tout cas sanctionnant la Russie. Je trouvais que il y a une clarté beaucoup plus poussée, contrairement à la récente résolution sur en tout cas les conflits qui opposent la RDC avec le Rwanda. Je pense que tout le monde peut quand même faire cette gymnastique et vous allez même constater que même sur à terme de la terminologie ou sur le plan sémantique ou essayer de faire encore une analyse beaucoup plus théologique, vous allez voir que l'esprit même de cette résolution mais précise pas, en tout cas, comme tel qu'on le souhaitait, voir cette sanction à l'adolescence de pouvoir satisfaire, en tout cas, les démarches du gouvernement congolais. Évidemment, on essaie encore de se féliciter à ces niveaux, mais moi, je pense que les désordres, si je puis me permettre, est dû aussi sur le plan procédural. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit que la Russie, et sur la guerre opposant la Russie avec l'Ukraine, la Russie essaye d'exposer en tout cas ses avis, essaye d'expliquer clairement ce dont elle veut en tout cas saisir sur cette guerre. Mais ici en RDC, on voit qu'on poursuit cette démarche à l'ordre dispersé. À un certain moment, on s'acquise au niveau interne, à un certain moment, on se victimise au niveau international. Alors, autant on définit la souveraineté étant comme les pouvoirs de faire et d'interdire de faire, moi, je me pose la question, est-ce que la RDC a la capacité de faire ou d'interdire de faire envie de s'en féliciter sur cette fameuse résolution? Mais encore une fois, là, dans cette résolution, on voit qu'on a sanctionné que des personnes, sauf tromperie de ma part, ou sauf ignorance de ma part, n'a pas bien compris, en tout cas, la résolution. Mais je vois qu'on a sanctionné que des personnes. Là, on a sanctionné des personnes. Si on se réfère à la résolution sur la Russie, on voit clairement qu'on a très bien dit à la Russie de pouvoir retirer en tout cas ses troupes. Maintenant, la question que j'aimerais poser un peu en l'invité, puisque sur les plans formels, tous les États sont égaux. La question que je me pose, sur cette fameuse résolution, monsieur l'invité, pensez-vous vraiment que les troupes rwandaises soutenant les M23 avec l'AFC vont se retirer, puisqu'on a vu les quais d'Orsay monter au créneau pour intimer l'ordre afin que ces troupes puissent se retirer? On a vu en tout cas les fameux tweets de M. Emmanuel Macron, dur à ces gens de pouvoir se retirer. Mais jusqu'à maintenant, on voit que l'avancée est beaucoup plus considérable. Évidemment, la Russie ne s'est pas non plus retirée de la Crimée. La Russie ne s'est pas encore retirée du Donbass. Est-ce que toutes ces questions nous poussent à croire que je pense qu'on va continuer des jérémiades en jérémiades, on va continuer de se tromper sur cet aspect en termes des résolutions, mais sur les plans pratiques.
Non, Obed, vous pensez que sur les plans pratiques, cette résolution a beaucoup de chances de rester lettre morte, c'est ça?
Mais bien évidemment, M. Marcel, pour des raisons que je venais d'évoquer. Bon, peut-être j'attendrai à ce que M. Lembité puisse me contredire ou puisse me donner encore d'autres théories qui pourraient, en tout cas, nous motiver en termes de satisfaits sur ces conflits, M. Marcel. Je pense que la première des choses à faire serait de ne pas être versatile, d'être beaucoup plus constant et d'être beaucoup plus précis en termes de démarches. Puisque apparemment, il semble que c'est vraiment une guerre congolo-congolaise. À un certain moment, on présente au niveau international qu'il s'agirait bien d'une guerre, une fois, rwando-congolaise. Donc je pense que toutes ces ambiguïtés poussent à s'égayer. Et même l'esprit de la résolution puisse être imprécis, et en termes de sanctions, on puisse sanctionner qu'il y ait des personnes. Or, en suivant les démarches du gouvernement congolais, on aurait bien aimé voir cette résolution sanctionner très clairement les Rwandais. Chose qui n'est pas faite, M. Marcel. Voilà
merci.
À ce niveau qu'on se pose des questions.
Voilà, merci beaucoup, Bet Boïssa. Depuis Kinshasa, on va cette fois-ci à Likasi pour retrouver Ornicar Banza. Ornicar, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Marcel, pour la parole. Merci beaucoup à la Radio Okapi. Je crois nécessairement par rapport à notre thématique, la première phrase par laquelle je pourrais commencer, c'est que la communauté internationale n'est pas sincère, elle n'est pas franche dans tout ce qu'elle est en train de faire. Et j'estime aussi que toutes les résolutions prises n'ont pas de sens ou n'ont pas de soubassement dans notre pays. Je m'explique. C'est vrai que certaines personnes estiment qu'il y a des avancées sur le plan diplomatique parce que nous avons eu ces résolutions, nous avons eu ces sanctions. Mais du moment où nous sommes en train d'obtenir les sanctions, bien sûr, mais le Rwanda, qui est pays agresseur, est en train d'obtenir des soutiens militaires de la communauté, de cette même communauté internationale, bien sûr, à travers l'Union européenne. Moi, je crois que si cette communauté internationale était sincère et que cette communauté internationale voudrait nécessairement nous aider, je crois que elle devrait mettre à notre disposition ses soutiens militaires et que nous fassions mieux. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je crois, ça doit être, si pas en 2021, ça doit être en 2022, où nous avons entendu l'envoyé de la MONUSCO ici chez nous, pour ne pas parler de Madame Bintou, qui a dit que les rebelles étaient plus armés que même la MONUSCO, ce qui voudrait dire que la communauté internationale ne peut pas être, ou n'est pas franc, ou n'est pas franche, mes excuses, parce que dans la réalité des choses, c'est que la MONUSCO ou l'ONU, c'est toute une nation. Est-ce qu'un groupe rebelle peut dépasser nécessairement une force armée de toute une nation, ce qui n'est pas normal? Et à ce niveau-là, je reviens pour dire à nos gouvernants que il est plus que temps que nous rentrions chez nous. C'est pourquoi chaque fois quand nous sommes en train d'intervenir, nous disons nécessairement qu'il faut revitaliser nécessairement l'accord, en fait, les processus de Nairobi, dans lesquels nous devons nous mettre autour d'une table et que nous parlions entre nous sincèrement. Parce que chaque fois que nous comptons sur cette communauté internationale, je n'ai jamais vu nécessairement des sanctions claires et sincères. La bonne chose à faire, mes excuses, c'est de rentrer chez nous, que nous tentions de résoudre le problème chez nous, et je crois que si nous résolvons ce problème dans toute sincérité ici chez nous, nécessairement l'ennemi ne pourra pas avoir le temps de résister chez nous. Alors, par conséquent, je crois que toutes ces résolutions-là, ce sont des résolutions qu'il ne faut jamais prendre en considération, et je les considère toujours comme si ce sont des éléments qui nous font endormir et qui nous font perdre le temps au lieu de se concentrer à l'essentiel.
Voilà.
Parce que c'est nous, la RDC, qui perdons nos hommes.
Voilà, merci beaucoup. Ornicar Banza depuis l'ICACI. Avant de retrouver notre invité Frédéric Amani, on va donner l'occasion à Félicien Momba qui nous appelle depuis Jérémy Momba. Merci à la régie. Jérémy Momba qui appelle depuis le Lubumbashi pour suivre sa réaction. Jérémy Momba, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Moi, je pense que la demande des cessations des hostilités ainsi que d'autres aspects qui sont consignés dans la résolution à travers les conseils de sécurité, moi, je pense que elles sont les bienvenues, ces résolutions, mais je pense que maintenant, les problèmes demeurent. C'est que moi, je pense que lorsque on parle des résolutions, c'est qu'au départ, il y avait un problème. Mais dès lors que ce problème demeure entier, à quoi parler des résolutions? Donc, il y a résolution, ça veut dire qu'il faut que la partie lésée trouve sa réponse. Mais aujourd'hui, nous trouvons que la RDC est toujours asphyxiée, malgré les sanctions de l'Amérique, face au ténor, n'est-ce pas, de Kigali. Moi, je pense que ça, c'est aussi bien dans la forme parce que c'est une pression à l'endroit du pouvoir de Kigali, mais ce n'est pas tout. Parce que le problème maintenant demeure, c'est que nos compatriotes qui sont à l'Est continuent à être inquiétés. Moi, je pense que doiter l'enfant parce que l'enfant a mal fait, ce n'est pas tout. C'est tout. On peut doiter l'enfant lorsque l'enfant a fait un petit problème. Mais lorsqu'il y a l'irréparable, lorsqu'il y a viol, et là, on ne doit pas doiter l'enfant. On doit passer directement à l'acte.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non, ça veut dire, dans le concret, nous en avons marre. Mais ça fait longtemps, on ne fait que dire, nous condamnons, nous allons condamner jusqu'à quand? Non, nous en avons de trop. Maintenant, la passer à l'action, ça veut dire quoi? Dire ceci au président de Kigali, vous en avez fait de trop? La CPI est ouverte pour y répondre. Carrément, des gens qui commettent des exactions du genre que nous avons aujourd'hui. Vous savez que la RDC a tous les records. Que ce soit dans les déplacements de nos compatriotes qui sont à l'Est, que ce soit dans les viols de nos mamans, ainsi que de nos... Donc, ça dit des enfants qui meurent comme des sauterelles. Là, nous en avons des trop. Alors, moi, je voudrais dire ceci. Il n'y a pas d'espoir de l'autre côté. Vous savez que le Conseil de sécurité a vu sa charte être violée. La souveraineté de la RDC, son indépendance est mise en mal. Et il faut rentrer à la case de départ. J'ai vu, vous avez aussi évoqué un autre volet tel que il n'y a pas de sérénité entre nous. Entre ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition. C'est le moment. Là, j'interpelle les chefs de l'État. En tant que les garants du bon fonctionnement des institutions et les pères de la nation, c'est le moment de pouvoir rassembler les troupes. Parce que vous savez, nous avons salué la passation de pouvoir entre les pouvoirs entrants et sortants. C'était déjà un grand signe de notre valeur démocratique. Nous devons conserver ça. Comment le faire? Il faut savoir réunir tout ce monde. Il y a des forces vives dans notre pays. Il y a la société civile. Il faut entendre tous ces différents sons de cloche. C'est là que maintenant je voudrais épouser ce que fait la Cinco ainsi que les confessions religieuses. Je salue ça. Pourquoi? Parce que c'est là que pourra venir une lueur d'espoir. Lorsqu'il y a des points qui fâchent, il faut réunir tous les enfants autour d'une même table pour que tous ces points soient traités. Ce n'est pas le moment de pouvoir parler d'autre chose parce que nous avons trop tendu la main de l'autre côté. Il n'y a pas d'espoir. Il faut maintenant que l'on puisse se parler parce que nous avons notre démocratie que nous devons préserver. Et c'est autour de la sérénité que nous pouvons résoudre les problèmes de notre pays.
Voilà,
parce
merci
que notre
à vous.
Souveraineté est mise à mal par Kigali ainsi que ses parents.
Voilà, merci à vous, à Jérémy Mwamba, depuis Lubumbashi. Alors, avant de retrouver notre invité Frédéric Amani, qui est en ligne depuis Lubumbashi, j'ai le plaisir d'accueillir dans ses studios Julie Feza Bungonda pour les réactions des auditeurs. Et Julie Feza, vous avez la parole.
Bonjour Marcel.
Bonjour.
Bonjour à Frédéric Amani et à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Ce matin, les réactions sont nombreuses, variées sur la résolution du Conseil de sécurité. Certains y voient une avancée diplomatique importante, d'autres doutent de son efficacité sans action concrète et certains dénoncent une décision insuffisante face à la gravité de la crise. Voici un aperçu des avis recueillis. De réactions favorables. Marshall Lumbala d'Istanbul considère que les sanctions ne sont pas punitives, mais visent à provoquer un changement. Il soutient la décision du chef de l'État pour un gouvernement d'union nationale. Maître Henri Wemboloa salue la résolution 2773 comme une victoire diplomatique pour la RDC et insiste sur la nécessité de rester vigilant tout en capitalisant sur cette avancée. Peter Maboudi reconnaît l'engagement collectif des Nations Unies en faveur de l'RDC et souligne l'importance de suivre l'application de la résolution. Carlos Munyoka de Luanda se réjouit de la clarté des demandes du Conseil de sécurité, notamment le retrait immédiat du M23 et de troupes rwandaises, tout en restant attentif à l'application concrète. Alexis Kelema soutient fermement la résolution et rappelle que la situation en RDC doit être condamnée par tout homme de bonne foi. De réaction neutre, Manganzi Lizoka souligne l'ambiguïté et l'incohérence des sanctions, regrettant l'absence de mesures plus fermes. Georges Kilangalanga Dibunya pense que la résolution est un pas en avant, mais qu'elle pourrait aussi légitimer certaines revendications du Rwanda. Franck de Vienne salue les efforts diplomatiques, mais estime que seule une approche stratégique combinant diplomatie et renforcement militaire peut changer la donne. Baraka Godefroy reconnaît l'impact diplomatique de la résolution, mais insiste sur la nécessité d'une pression plus forte pour obtenir des résultats concrets. Malou Paul voit la résolution comme un signal positif, mais rappelle que sans mesures concrètes de suivi, son effet risque d'être limité. Avis que partagent inspecteur Justin Mouroula, maître Patrick Odia, maître Christian Politassi. De réactions défavorables, Jérémy Mwamba, qui vient de s'exprimer ici, je résume quand même sa réaction. Il exprime une grande fatigue face aux déclarations sans action concrète et dénonce un manque de fermeté. Alain Moutiki considère que la résolution est une simple distraction qui ne changera rien sur le terrain, accusant la communauté internationale d'hypocrisie. Pour Patient Mouroula, tant que la RDC ne montrera pas sa force militaire, aucune solution ne sera possible. Victor Mbouyi appelle à une sincérité plus grande de la communauté internationale et refuse une répétition des résolutions inefficaces du passé. Enfin, Ornicar Banza doute de l'application réelle de la résolution et demande quelles seront les mesures contraignantes en cas de non-respect par le M23. Voilà. Pour conclure, Marcel,
allez-y.
Les avis de nos auditeurs reflètent une attente forte, celle de voir de mesures concrètes sur le terrain entre optimisme, prudence et scepticisme. Une question majeure demeure. Cette résolution marquera-t-elle enfin un tournant décisif pour la paix en RDC ou restera-t-elle une déclaration de plus sans réel impact? L'avenir nous le dira.
Voilà, l'avenir nous le dira. Wait and see. Merci Julie Feza. Bon, bon, on vous retrouve demain.
Merci Marcel, à demain.
On revient à notre invité Frédéric Amani qui est au téléphone depuis Lubumbashi. Frédéric Amani, vous êtes là?
Je suis là, monsieur Marcel.
Voilà, vous avez suivi hein, les réactions des uns des autres également, les condensés de réactions hein, que nous a donné à Julie Feza Bungonda. Il y a un certain scepticisme par rapport à cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les gens estiment qu'il faut absolument, vous l'avez évoqué hein, lors de votre intervention, que le Conseil de sécurité a le pouvoir de règlement, le pouvoir coercif et le pouvoir d'accord régionaux. Et là, beaucoup attendent de voir des mesures coercitives hein, au cas où cette résolution n'est pas appliquée sur le terrain. Frédéric Amani.
Bien, merci beaucoup. Je salue les réactions des uns et des autres. Alors, c'est vrai. Et je dois rappeler que l'article 25 de la Charte des Nations Unies voudrait que, je vais peut-être paraphraser, que le Conseil de sécurité agit au nom de l'ensemble des membres, c'est-à-dire au nom de l'ensemble des Nations Unies, et a le pouvoir de contraindre tous les membres de l'organisation à appliquer ces résolutions. Cet article est là. Je crois que par rapport à ce qui se passe à l'Est, eh ben, on doit avoir le courage de dire qu'il y a une menace de la paix. Et cette menace n'est pas seulement au niveau interne, mais aussi même au niveau externe. Je l'ai toujours dit et on le dira peut-être pas assez, que cette crise à l'Est de la RDC affecte directement ou indirectement la sous-région. Et donc, il va de l'intérêt de chaque État membre de cette région de faire un effort pour que la paix revienne. Alors, cet article est là, mais malheureusement, est-ce que, au regard effectivement d'un caractère qu'on peut juger ambigu ou flou de la résolution votée le vendredi passé, j'ai craint qu'on en arrive jusque là. Mais aujourd'hui, puisqu'on est face à une évidence, la résolution est là, mais la crise perdure. Entre-temps, on continue, n'est-ce pas, l'offensive. Moi, je pense que c'est vrai, on doit s'inscrire dans cette logique militaire « talk and fight ». Puisque le M23, soutenu bien entendu au regard des rapports d'experts des Nations Unies par le Rwanda et bien d'autres.
Mais quand vous parlez, Frédéric Amani, attendez, quand vous parlez de talk and fight, on est dans un pays francophone, vous voulez parler de continuer en même temps sur le front diplomatique, mais aussi sur le front militaire.
Tout à fait. C'est-à-dire quoi? On fait une diplomatie, on continue l'offensive diplomatique, mais au niveau interne, on ne doit pas dormir. On doit soutenir l'armée, on doit appuyer l'armée, on doit continuer aussi l'offensive parce que les belligérants en face ne respectent pas les cessez-le-feu, ne respectent pas, n'est-ce pas, les recommandations données, que ce soit par EAC, SADC, ou l'ONU, il continue, n'est-ce pas, à ouvrir les feux. Je pense que cette stratégie devrait aussi être appliquée par les gouvernements congolais. Au-delà de cette stratégie, il est temps, les auditeurs sont revenus là-dessus, qu'au niveau interne, il faut que les chefs de l'État, n'est-ce pas, rassemblent toutes les troupes. Et moi, je pense que c'est pendant cette période de crise où la communication doit être bien calibrée, que ce soit pour les instances dirigeantes ou que ce soit, n'est-ce pas, pour les différentes couches de la population, confession religieuse, société civile ou les partenaires même de l'Union sacrée. On doit éviter, n'est-ce pas, des chevauchements dans la communication. Cela peut créer peut-être des frustrations ou encore des fissures au niveau interne. Ça, c'est de un. D'aider, moi, je pense que il est grand temps aujourd'hui de penser la réorganisation au travers, puisque le président de la République l'a dit, il a compris qu'il y a, n'est-ce pas, des trahisons au sein de l'armée. Excusez-moi, je ne suis pas dans les secrets du chef, mais en dénonçant cela, lui en tant que garant de la nation, on aimerait savoir dans les jours à venir que les traîtres au sein de l'armée ou les espions au sein de l'armée ont été appréhendés et déférés devant les instances judiciaires pour décourager d'autres, n'est-ce pas, officiers qui s'adonneraient à cette pratique. Voyez-vous, il y a des soldes des militaires peut-être volés ou détournés, il a dit, et je pense que des enquêtes devraient être diligentées pour décourager cela parce que l'armée, c'est quand même, n'est-ce pas, un élément très important dans un État qui se veut souverain et pour sécuriser les frontières et la population. Et troisièmement, je pense que aujourd'hui, cette résolution est là, les sanctions sont là, mais d'autres efforts devraient être faits. On ne le dira jamais assez. Il y a l'initiative de la CENCO que nous saluons tous parce que il faut que la paix reviennent à l'Est et aussi sur toute l'étendue du pays. Il y a aussi des efforts, l'un des auditeurs l'a dit, le gouvernement d'Union nationale. Mais moi, j'insiste sur le fait que gouvernement d'union nationale, oui, mais on ne doit pas aussi oublier cet aspect des choses, de diminuer les trains de vie des institutions. Je crois que cela permettra à ce que les fonds alloués à certaines institutions soient canalisés sur les efforts de guerre et sur, n'est-ce pas, l'achat des munitions ou sur la logistique, si vous voulez bien, des forces armées et défense pour, n'est-ce pas, la puissance ou pour, n'est-ce pas, la capacité. Et enfin, pour terminer, moi, je pense que aujourd'hui, face à ce qui prévoit à l'Est ou face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, n'est-ce pas, je pense aujourd'hui que il va de l'intérêt du gouvernement congolais de redéfinir ses partenariats stratégiques avec ses alliés. Ça, c'est un élément important. Et un autre élément, il va aussi de l'intérêt de nos dirigeants et de l'ensemble du peuple congolais, n'est-ce pas, de penser le vivre ensemble et la cohésion au niveau interne. Ces éléments, d'un point de vue, peuvent permettre à ce que la résolution votée, les sanctions déclenchées et une dynamique interne au niveau, n'est-ce pas, des instances dirigeantes et de la couche des populations, la synergie de ces éléments peut, si vous voulez bien, apporter du tonus dans les efforts pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC.
Voilà, on va revenir au standard pour écouter Christian Kassessi qui nous appelle depuis Kisangani, mais aussi Sylvain Guionov qui est à Mayagi. On reviendra à vous, Frédéric Amani. Christian Kassessi, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel, et bonjour à l'invité, mais également à tous les éminents auditeurs qui ont déjà eu à intervenir antérieurement. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes en train de parler du chapitre 7 concernant la paix et la sécurité internationale. Je crois qu'on doit se dire que c'est vrai que le Conseil de sécurité en vertu de l'article 24 des Nations Unies et de la chaîne des Nations Unies a reçu pour monsieur principal le métier de la paix et de la sécurité internationale. Néanmoins, lorsqu'elle doit prendre des résolutions tendant à rappeler les uns les autres qui se sont comportés en vertu de la charte, et surtout lorsque la paix ou la sécurité internationale est menacée, ces résolutions-là n'ont aucun caractère contraignant. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité ne peut pas prendre des mesures coercitives à l'égard des États qui ne les ont pas respectés, qui n'ont pas appliqué ces résolutions-là. Mais dans le contexte congolais, je crois que nous devons le dire souvent que notre problème, nous congolais, c'est la négation de l'évidence. Et je dis l'évidence, c'est quoi? C'est que la communauté internationale a une responsabilité dans l'agression dont nous sommes victimes. Je ne crois pas qu'il soit plausible qu'on continue à faire espoir à ce que la solution viendrait de ce côté-là. À l'interne ici, nous avons une armée qui aujourd'hui a démontré une incapacité à pouvoir bouter l'ennemi dehors. L'autre évidence aussi, c'est qu'on refuse de pouvoir dialoguer avec l'un 23, mais à contrario, nous voulons la paix. Je le rappelle que le même droit international auquel nous recourons aujourd'hui pour ramener la paix en RDC, il permet à ce que l'on puisse signer un accord de paix entre un gouvernement et un groupe rebelle. Le droit international humanitaire le permet. Alors l'État congolais semble vouloir la paix, mais ne fait pas le besoin de la paix primordial ou urgent. Il veut essayer un peu de vaciller ça et là, jouer avec la diplomatie des temps perdus, comme l'a dit Lenina Kofi Moïse Tshilombe, et finalement, le peuple est en train d'empathie. Mais je le rappelle que notre président de la République, il doit prendre la conscience que notre pays est en train de partir, qui est seulement si rien ne fait. La seule option réaliste à l'heure actuelle est de dialoguer avec l'un 23.
Personne n'a encore dit
l'agenda clé.
Merci. Mais rapidement.
Le gouvernement part discuter avec l'un 23 et qu'à la fin, il revient pour nous dire finalement voilà ce que l'un 23 donne comme condition et ce qu'il donne comme clause pour qu'il y ait rétablissement de la paix. Maintenant, à l'Est, la vie s'est arrêtée. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas banque, il n'y a aucun service de banque. Merci beaucoup pour
voilà. Merci.
Le temps m'accordé.
Merci, Christian Cassissier. On va prendre le tout dernier auditeur. Cécile. Félicien, on me fait signe qu'il y a Félicien qui est en ligne. Félicien, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je remercie aussi l'invité qui est à Lubumbashi. Mais je voudrais, quant à cette thématique, préciser une chose. Pour ceux qui pensent que cette recommandation, cette résolution du Conseil supérieur des Nations Unies n'est pas définie dans des termes clairs allant dans le sens de condamner les Rwanda. Non. Dans la résolution, il faut faire la part des choses. Ce sont des recommandations qui ont été faites aux belligérants. Où c'était d'abord une étape cruciale où on devait d'abord pointer du doigt que les Rwanda retirent ses militaires sur la République dans les territoires de la République démocratique du Congo et ses supplétifs du M23. Alors, s'il arrivait que les Rwanda ne puissent pas obtempérer aux recommandations lui formulées dans la résolution par le Conseil supérieur, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors vous verrez qu'il y aura maintenant les recours à ce que nous appelons les recours au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui consiste à ce que le Conseil de sécurité puisse déployer même une force militaire pouvant contraindre le Rwanda à pouvoir s'exécuter et à pouvoir faire face à cette résolution. Alors, pour les gens qui disent que non, il n'y a pas de terme clair, non, il faut comprendre l'esprit de cette résolution. Nous ne devons pas être pessimistes quant à ça, mais nous devons quand même croire, parce que si nous ne croyons pas à cette résolution, là, on ne sait pas alors à quoi servirait ces conseils de sécurité qui constituent un gouvernement mondial dans le monde, capable de pouvoir intervenir partout où la paix et la sécurité internationale est menacée. Quant à moi, je trouve que cette résolution, c'est quand même une avancée significative parce que le Rwanda n'aura pas aucun autre choix que de pouvoir exécuter cette résolution. Alors, vous-même, vous verrez que Rwanda n'aura aucun autre choix parce que s'il ne le fait pas, il sera maintenant en face de puissances qui seront capables, les puissances qui seront capables de prendre des sanctions, même individuelles. Vous avez vu, nous avons vu l'arrivée du ministre des Affaires étrangères britannique qui a manifesté quand même l'intérêt clair que le Rwanda ne doit pas être bercé. Tout cela devrait quand même nous interpeller. Bon, nous savons que l'apanage de la sécurité d'un État revient premièrement à l'État lui-même. Alors, cette résolution ne doit pas quand même faire endormir aussi le gouvernement congolais de pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour faire la montée en puissance de nos FRDC. Alors, mais quant à moi, je crois que cette résolution, c'est quand même une avancée significative parce
merci.
Qu'aujourd'hui, notre...
Voilà, merci, vous l'avez dit, c'est une avancée significative. Beaucoup d'auditeurs également l'ont reconnu, mais finalement, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, comme l'a dit également l'invité. Merci, Félicien Tchitouma. On va revenir à notre invité, Frédéric Amani, pour conclure. Frédéric Amani, vous avez la parole pour la conclusion.
Merci beaucoup. Le chapitre 7 dont on parle assez traite de l'action du Conseil de sécurité en allô.
Vous êtes en ligne, on vous écoute, allez-y.
Ah ok, merci. Oui, je disais que le chapitre 7 dont on fait, dont on évoque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies traite de l'action du Conseil de sécurité en ce qui concerne les menaces contre la paix, les ruptures de la paix et les actions d'agression. Et je voudrais ici évoquer l'article 39 de la Charte des Nations Unies qui dit, peut-être je vais peut-être aller vite, s'il constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, de faire des recommandations non contraignantes ou des décisions contraignantes sur les mesures à prendre. Donc, le Conseil de sécurité est en droit, selon le chapitre 7, article 39, de faire des recommandations au regard de la résolution, mais aussi on peut passer à des mesures contraignantes où on invite, n'est-ce pas, une mission onusienne et on lui donne, n'est-ce pas, la mission d'imposer la paix. Et je pense que même l'article 40, lorsque vous le lisez, invite les parties au conflit à se conformer aux mesures, n'est-ce pas, prises, et lesquelles mesures, soit des mesures contraignantes ou des mesures facultatives, pourvu que la paix revienne. Alors, en conclusion, il y a trois approches. Il y a l'approche militaire qui, au niveau sur terrain, ça pose un peu de problème. Il y a l'approche politique. Et cette approche voudrait qu'il y ait des dialogues, que ce soit au niveau interne ou, n'est-ce pas, au niveau sous-régional. Il y a aussi l'approche diplomatique et les organisations internationales privilégient cette approche. Dois-je rappeler que l'ONU a été créée en 1945 pour éviter que le monde ne puisse pas tomber dans la Troisième Guerre mondiale ou par rapport aux atrocités. Voilà pourquoi l'ONU et d'autres organisations privilégient beaucoup la résolution des différends par des moyens pacifiques, notamment les négociations ou les dialogues. Donc moi je pense que puisque nous sommes face à des évidences et que la RDC veut la paix et la RDC privilégie l'approche diplomatique et donc il n'y a pas peut-être de honte de le dire, on peut aller à la négociation ou au dialogue selon les cas, faudrait-il préciser ces formats. Et la RDC en tant qu'État souverain doit d'abord écouter les uns les autres et il revient au pays et aux responsables d'en décider les tenants et les aboutissants. Moi je pense que c'est ça la réalité.
Voilà.
Parce que les vies sont en train d'être perdues. Il y a, n'est-ce pas, des villes qui tombent et nous déplorons cela. Nous pensons que l'approche diplomatique doit continuer à inviter la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Mais au niveau interne aussi, on doit aussi prendre les responsabilités qui reviennent à l'État.
Merci.
Et aussi mobiliser la population pour que la paix et la sécurité reviennent. Sans oublier, pour terminer, les relations internationales sont des relations d'intérêt et de puissance.
Voilà,
et
merci.
La communauté internationale suit cette dynamique-là.
Voilà, merci beaucoup Frédéric Amani. Je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Merci à toute l'équipe technique, Pierre Diassinois, Julie Feza, Bongonda, Élise Kavira et Trio Banzi. À la présentation, c'était Marcel Ngombombala. À très bientôt dans un nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.